Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca pour cette édition du 27 novembre avec Marie-Ève à l'animation. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, les Apatrides Anonymes, c'est une revue commentée des actualités nationales et internationales à propos des questions migratoires et autochtones, des dérives autoritaires et sécuritaires, de l'extrême droite, du racisme ordinaire et systémique, mais aussi des mouvements de résistance et de solidarité. Parce que, ben oui, il y en a. La première partie de l'émission va se concentrer sur la scène internationale. Simon, toi, tu vas nous faire le point sur la situation post-électorale en Tanzanie et au Cameroun.
Oui, en Afrique, donc.
Oui! Et moi, je vais vous parler, on va rester en Afrique aussi avec moi, je vais vous parler d'une initiative de l'OIM pour identifier les personnes migrantes disparues sur les routes terrestres et maritimes entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Je vais aussi parler de la situation des réfugiés syriens en Allemagne. Et Simon, lui, de la Macédoine du Nord et plus généralement de l'Union européenne.
Ben oui, ce sera en deux parties pour mon segment européen.
Super. Et puis avec Mathieu qui est à la console pour le moment, toi, on va se tourner vers ton sujet fétiche, la Palestine, génocide en cours.
Exactement, conflit israélo-palestinien, génocide en cours, Palestine post-cessez-le-feu, mais ça va pas tellement mieux. Hein?
Ouais, non. Cessez-le-feu, entre guillemets.
Entre guillemets.
Mais tu vas aussi nous présenter les actualités d'ici avec l'immigration.
Oui, beaucoup sur les sites d'immigration fédérale provinciale qui ont annoncé dans les dernières semaines.
Super, ben merci. Et écoute, on se lance dans quelques secondes en commençant par l'Allemagne. Des élus de la coalition conservatrice et social-démocrate en Allemagne déchirent leurs chemises dans les médias depuis le début du mois à propos de l'éventuel rapatriement de réfugiés syriens dans leur pays. Lors d'une récente visite en Syrie, le ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré que le niveau de destruction de la ville, et je cite, « rappelle les images que nous avons vues en Allemagne en 1945 après la Seconde Guerre mondiale ». Et qu'il est pratiquement impossible pour les gens de vivre ici dans la dignité. Et donc, ils doutent qu'un grand nombre de réfugiés syriens puissent, à court terme, retourner volontairement dans leur pays. Une dernière citation de M. Wadephul. Le peuple syrien souffre terriblement. Tous ceux qui restent parmi nous contribuent à notre société et font l'effort de s'intégrer et continueront d'être les bienvenus. Donc, des déclarations qui lui ont attiré de vives critiques au sein de son propre parti. Par exemple, Gunther Kriegs, le vice-président du groupe parlementaire d'Union des conservateurs CDU-CSU, considère, lui, que le degré de destruction de la ville, le degré de destruction lié à la guerre dans un pays, devrait pas être un argument valable contre le rapatriement, qu'il soit volontaire ou obligatoire. Selon lui, comme la guerre civile a pris fin en décembre 2024, c'est à nouveau possible pour une grande majorité des Syriens de retourner dans leur pays. Je cite M. Kriegs, « Après tout, qui est censé reconstruire un pays détruit si ce ne sont pas ses propres citoyens? » Évidemment, personne n'est contre la vertu, sauf que dans ce cas-ci, on peut raisonnablement douter que c'est véritablement la reconstruction de la Syrie qui est au cœur des préoccupation de M. Kriegs. La preuve, un porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé que les réfugiés syriens qui voyagent et se rendent dans leur pays d'origine depuis l'Allemagne risquent de perdre leur statut de protection. C'est que selon les règles actuelles, seuls des cas exceptionnels comme la visite de proches malades ou encore des funérailles peuvent justifier un retour temporaire en Syrie sans que la personne perde son statut de protection en Allemagne. Le gouvernement précédent avait d'ailleurs envisagé d'autoriser les personnes bénéficiant d'un statut de protection en Allemagne à se rendre en Syrie, entre autres pour préparer là, un éventuel retour définitif, comme le fait la Turquie depuis assez récemment. Mais cette mesure-là a jamais abouti. Il y a aussi Sven Schulz, le ministre de l'économie et chef des chrétiens démocrates dans la région de Saxe-Anhalt, Lui, ben, il est même allé jusqu'à dire qu'un pays partiellement détruit et dont les conditions de vie sont pires qu'en Allemagne, c'est pas une raison pour ne pas y travailler.
J'aimerais ça les voir, les habitants en Syrie, oh, hein, oui, ça a l'air tellement agréable.
Il y a toutefois une chose sur quoi tout ce beau monde s'entend, c'est l'expulsion des Syriens condamnés pour des crimes en Allemagne, comme c'est le cas pour les Afghans depuis quelques mois d'ailleurs. Le débat porte donc sur le fait que d'étendre les expulsions aux personnes dont le statut est temporaire. Je rappelle que l'Allemagne a accueilli environ 1 million de Syriens qui ont fui la guerre dans leur pays. Et beaucoup ont justement un statut temporaire qui est censé prendre fin lorsque un retour serait possible. Mmh. Alors voilà, Simon, toi, tu nous amènes donc Union européenne et Macédoine du Nord. Tu commences par...
Ben, je commence par l'Union européenne en tant que telle. On s'intéressera à la Macédoine du Nord, ce petit pays des Balkans, par la suite. Je commence plus spécifiquement avec la Commission européenne qui a annoncé le 11 novembre son plan de répartition des migrants en vertu du pacte Asile et Migration.
Ouais.
Négocié entre les États membres, la Commission devait arriver à un classement des États en fonction de leur degré de pression migratoire. Il y a donc 4 pays qui seront autorisés à évacuer un minimum de 30 000 personnes migrantes par année vers d'autres pays jugés moins soumis aux différentes vagues migratoires. Les 4 pays sont les suivants, Chypre, Grèce, Espagne et Italie, donc pas très surprenant. Ça, c'était une première étape, l'identification de ces pays, mais les négociations vont se poursuivre pour déterminer les nouveaux pays hôtes.
Mais oui.
Et le nombre de personnes migrantes qui seront envoyées, donc c'est loin d'être réglé, ça risque d'être assez laid durant les séances de la Commission. L'objectif est d'être parvenu à un accord d'ici la fin de l'année.
Bonne chance.
Et que ce soit mis en œuvre dès l'été prochain. Il y aura donc ensuite 3 possibilités pour les États qui sont supposés recevoir des personnes migrantes. Donc, accepter sur son territoire le nombre déterminé de migrants ou payer une amende de 20 000 euros par personne refusée ou encore participer à des mesures dites de solidarité, par exemple de l'aide logistique ou financière à d'autres pays qui reçoivent des migrants qui sont déplacés.
Parce que quand même, 20 000 par personne refusée, c'est pas rien, là.
20 000 euros, j'imagine qu'ils vont faire ils vont sortir leur grosse calculatrice, là, puis il y en a qui vont sûrement s'acheter des non-recevoirs.
Oui,
des migrants,
c'est ça.
Il y a des exemptions partielles qui sont prévues pour 6 pays en raison de leurs efforts des 5 dernières années. On les désigne officiellement comme des pays à situation migratoire significative. Ce sont la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, l'Autriche et la Pologne. On identifie aussi une autre catégorie, soit les nations dites à risque migratoire en raison des tensions persistantes sur leur système d'accueil. Ces pays ne bénéficient pas d'exemption particulière, mais ils auront un accès prioritaire à l'aide opérationnelle et financière. Ces pays sont, une autre liste, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie et les Pays-Bas. Je poursuis ces actualités européennes avec l'ONG allemande SOS Humanity, qui est spécialisée en sauvetage en mer.
Ouais.
C'est une autre brève, là. Ouais. Ça paraissait pas dans mon temps. et qui envoie un signal d'alarme avec une statistique assez effroyable. Une personne sur 5 qui est secourue en Méditerranée est une personne mineure. La plupart sont non accompagnées, des jeunes provenant principalement de Libye et de Tunisie, plus encore que de pays subsahariens, et c'est une tendance qui est actuellement en augmentation. Au moment de leur sauvetage, après des jours en mer, ils sont en très mauvaise posture, évidemment, physiquement et psychologiquement. Beaucoup ont connu l'enfer de l'esclavage libyen, ont été torturés et abusés de toutes sortes de manières atroces. Bref, SOS Humanity profite de cette sortie pour non seulement nous sensibiliser à cette réalité, mais aussi pour dénoncer le retrait complet du financement des ONG de sauvetage en mer par le gouvernement allemand, dans le contexte plus large de désengagement des États en aide internationale.
Ouais.
On craint aussi, en fonction de ce contexte politique actuel particulier, une intensification de la criminalisation du sauvetage civil en mer et une répression accrue de la solidarité avec les personnes migrantes. Et on rappelle cette revendication qui demeure plus pertinente que jamais, mettre fin à toute collaboration entre l'Europe et la Libye sur les questions migratoires. Je passe maintenant à la Macédoine du Nord. On l'attendait, même si Macédoine du Sud n'existe pas. Bref, c'est rare.
Mais en plus, c'est un pays dont on parle pas très souvent à l'émission.
Non, ben c'est ça. C'est vraiment rare qu'on en parle. C'est un petit pays. Par contre, quand on aborde toute la question de la route migratoire des Balkans, implicitement, on en parle un peu parce que la Macédoine du Nord est en plein milieu de l'itinéraire entre la Grèce et la Serbie. Infomigrant a décidé de mettre les projecteurs sur ce pays dans le cadre d'un grand dossier comprenant 3 articles très complets. Le premier des trois articles porte le titre suivant « Macédoine du Nord, ce petit pays des Balkans où les migrants vulnérables font une courte pause dans leur exil vers l'Europe ». On y apprend que seulement 5 % des migrants qui traversent le pays y font une demande d'asile, puisqu'ils cherchent généralement à rejoindre les pays plus riches d'Europe.
C'est un pays de transit.
Pays de transit. Donc, en général, les migrants qui passent par là n'en sont qu'à leur début dans le long parcours migratoire sur le continent européen, s'entend. Ouais. Certains étirent quelque peu leur séjour à Macédoine du Nord pour prendre un peu de répit avant de poursuivre leur route, puisque malgré la quasi-absence de services, l'entretien est déficient, la nourriture manquante, il y a de la place dans les camps, ce qui n'est pas le cas en Grèce, par exemple, où toutes les installations sont surpeuplées et souvent dangereuses. Ce sont donc surtout des personnes plus vulnérables ou affaiblies qui ne trouvent pas réaliste de poursuivre leur route qui vont se résigner à demander l'asile en Macédoine du Nord, dont les délais de traitement sont beaucoup moins longs qu'en Grèce. La plupart d'entre eux sont Syriens, ensuite Népalais, j'étais très surpris. Puis on a les Irakiens, les Turcs, les Afghans et les Égyptiens, et pratiquement tous verront leur demande refusée avec ultimatum de 20 jours pour quitter le territoire.
OK.
D'ailleurs, la Macédoine du Nord, qui n'est pas membre de l'Union européenne, ce qui fait en sorte que ses politiques d'accueil sont moins surveillées, moins normées, est l'un des pays du monde où on compte le moins de réfugiés. Il y en a actuellement 5 dans tout le pays.
OK.
Petite statistique édifiante, aucun statut de réfugié, le zéro, n'a été accordé entre 2016 et 2023. En plein pic migratoire.
Ouais.
Bref, dans cet article, on rencontre une famille afghane assez attachante qui a fait une demande d'asile et qui est composée d'un couple et d'une fillette. On nous parle de l'attitude très peu scrupuleuse des passeurs durant le parcours de la famille, dont la traversée en mer entre la Turquie et la Grèce, je le rappelle, avec une petite fille de 3 ans. On nous décrit les installations dans l'unique camp pour migrants au sud du pays qui semble partiellement à l'abandon. On rencontre aussi Mariam, d'origine marocaine, et l'une des deux seules femmes à bénéficier du statut de réfugié en Macédoine du Nord, pays qu'elle juge malgré tout plus sécuritaire et accueillant que la Grèce.
OK.
Le deuxième article de trois dans ce grand dossier s'intitule « En Macédoine du Nord, la zone grise entre retour volontaire et expulsion déguisée vers la Grèce ». Dans ce texte, on suit surtout des jeunes hommes qui se trouvent aussi dans ce camp frontalier et qui vivent beaucoup d'inquiétudes en raison du très peu d'accompagnement disponible pour la suite des événements qui les concernent. Il y a tellement peu de ressources sur place, ONG, travailleurs du gouvernement, traducteurs. Il y a pratiquement juste la police qui est là, dont les agents ne sont pas autorisés ou formés pour conseiller les migrants.
Non.
Certains choisissent d'effectuer une demande d'asile tout en sachant qu'elle sera refusée, mais le processus garantit pratiquement le déplacement dans un hébergement temporaire dans la capitale macédonienne, à Skopje. Beaucoup plus au nord, dans un milieu où on trouve beaucoup plus de ressources, une communauté où on peut travailler. Et pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre leur route malgré la demande d'asile qu'ils ont faite, le pays aura déjà été pratiquement traversé au complet. Une fois rendu à Skopje, qui est très proche de la frontière avec la Serbie ou avec le Kosovo, dépendamment de quel État vous reconnaissez. Par contre, pour les demandes les plus rapidement traitées et refusées, ça signifie souvent une reconduite à la frontière grecque, que le titre de l'article désigne comme étant déguisé en retour volontaire, puisque le consentement est obtenu à l'oral et dans un contexte, comme je le mentionnais, de manque total d'informations légales. Ouais. Et ce retour est souvent suivi d'une arrestation par la police grecque et d'une détention allant jusqu'à 2 ans, ou sinon par une interception par des groupes criminels qui sont très actifs dans toutes les régions frontalières des Balkans. Il y a le réseau Border Violence Monitoring qui documente beaucoup ces renvois plus ou moins formels. Je vais citer un de ses porte-parole. Il n'y a pas de document écrit à signer, la Grèce ne les empêche pas d'entrer en Macédoine et la Macédoine les renvoie en Grèce. C'est une sorte de situation informelle entre les deux pays. C'est la même chose au nord entre la Serbie et la Macédoine. Mais les migrants sont motivés, ils reprennent en général la route vers la Macédoine une fois en Grèce et sont de nouveau reconduits en Grèce et le manège recommence parfois plusieurs fois. Écoutez, je pourrais parler de la situation migratoire en Macédoine pendant des heures tellement ce dossier est complet et captivant. Je vous donne le titre du troisième et dernier article. C'est « Interroger, détenus comme témoins en Macédoine du Nord, les conséquences sur les exilés de la lutte contre les passeurs », donc beaucoup de pratiques illégales semblables à de la torture qui sont utilisées contre les migrants pour les faire parler. Mais ils se sentent un peu déchirés, les passeurs étant à la fois leur sauveur et leur bourreau.
Ouais.
Et ils ont peur en général aussi. Donc, bref, un grand merci à InfoMigrants pour ce travail journalistique de terrain. Pays de transit dont on entend très peu parler, c'est la journaliste spécialisée des frontières Maya Courtois, qu'on peut aussi lire dans Basta et dans Mediapart, qui signe les trois articles.
Eh bien, merci Simon d'avoir survolé ce méga dossier sur la Macédoine du Nord. On va prendre une petite pause musicale, puis on vous revient. le sait, en plus des milliers de personnes qui meurent chaque année sur les différentes routes de l'exil, qu'elles soient maritimes ou terrestres, il y a plusieurs personnes qui disparaissent et ne sont jamais retrouvées. Et pour éviter que toutes ces stratégies tombent dans l'oubli et pour redonner espoir et dignité aux familles restées derrière, il y a l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui va lancer un nouveau projet de recueil d'informations en coopération avec la Mauritanie et la Gambie pour identifier les exilés décédés en mer ou sur les routes reliant l'Afrique à l'Europe. Faut dire que l'OIM compte déjà sur une longue expertise de cueillette de données sur les migrants disparus, puisque depuis 2014, l'agence recense avec le Missing Migrants Project les personnes décédées sur les routes migratoires dans le monde, dont la Méditerranée. Mais il s'agit quand même de la première initiative du genre en Afrique de l'Ouest, qui va se faire en coordination avec les antennes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et aussi de l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale. Ça, c'est entre autres pour aider à l'identification médico-légale, à la recherche des familles et aussi à l'aide psychosociale. Concrètement, le projet va passer par la mise en place de formations sur mesure et un accompagnement technique pour permettre aux deux pays ouest-africains d'enquêter, de localiser les disparus et d'identifier les dépouilles. Je cite Sering Modou Ndji, qui est ministre gambien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'étranger. Ce projet intervient au bon moment car nous venons de lancer notre force nationale pour les migrants disparus et nous renforçons la coordination avec les pays voisins pour mieux répondre à ce défi commun. Encore une fois, plein de bonnes intentions. Le truc, c'est que les gouvernements gambiens et mauritaniens souhaitent aussi que le fait de rendre visibles ces tragédies-là, que ça va dissuader les gens de prendre la mer vers les Canaries espagnoles et l'Europe. C'est d'ailleurs déjà ce que la Mauritanie s'efforce de faire depuis plusieurs mois en intensifiant les opérations de contrôle, les retours volontaires, les arrestations et les interceptions de migrants.
Avec des millions d'euros directement déversés d'Europe.
Là, oui, c'est ça. Et donc là, il y a déjà plus de 30 000 migrants qui ont été interceptés sur le sol mauritanien seulement entre janvier et avril 2025. On a seulement les chiffres pour ces mois-là. En 4 mois, le pays a aussi démantelé 88 réseaux de passeurs et plus de 28 000 personnes ont été expulsées durant les 6 premiers mois de l'année, selon le gouvernement mauritanien. Selon l'OIM, en 10 ans, il y a près de 33 000 exilés qui ont perdu la vie en Méditerranée, plus de 5 600 le long de la route atlantique de l'Afrique de l'Ouest vers l'Espagne et près de 7 000 lors de traversée du désert du Sahara. Ça, c'est les estimations, évidemment, parce que les disparus, on ne sait pas trop.
Estimation conservatrice ou...
Je pense que oui. Sur ce, on va prendre une pause musicale en compagnie du groupe originaire de Philadelphie. Le groupe se nomme « They are gutting a body of water » ou « Tagabao » pour les intimes. Leur plus récent album « Lotto » avec 2 T, est sorti à la mi-octobre et figure en 26e position du palmarès international de choc. Ils sont en concert à Montréal le 7 décembre au Ritz PDB. On va entendre la pièce « The Chase ». Vous écoutez les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On entendait le groupe They are gutting Tagabar, on va dire. Et la pièce de Chase. Avant d'écouter ce groupe, on était en Afrique de l'Ouest, donc en Mauritanie et en Gambie. Et là, on va rester sur le continent africain avec Simon. Tu nous amènes au Cameroun et en Tanzanie, c'est ça?
Ouais, Cameroun, que je crois qu'il est en Afrique de l'Ouest, la limite, là. Mais puis Tanzanie, pas du tout.
Non.
Puis c'est ça, après, il y a deux semaines, je vous parlais du Darfour au Soudan et les pays voisins qui continuent de s'enfoncer dans l'horreur. Donc, j'ai manqué de temps un peu pour finir sur deux dossiers africains qui chauffent quand même pas mal. Je me concentre sur la consolidation de régimes autoritaires suite à des élections très douteuses, ce qui met la table dans les années à venir pour des exodes de masse assez prévisibles à moyen terme. Pour l'instant, il n'y en a pas. On va se rendre donc en Tanzanie, mais je commence avec le Cameroun où Paul Biya, 92 ans, a obtenu, suite aux élections présidentielles, un huitième mandat de 7 ans à la tête du pays, ce qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc, depuis 82, 43 années consécutives comme président du Cameroun, précédé par 7 années comme premier ministre, donc plus d'un demi-siècle de domination de la vie politique camerounaise, entaché par toutes sortes, disons, d'irrégularités, pour être poli, élimination d'opposants, des mandats parfois obtenus sans opposition, muselage de la presse, élections contestées, forte répression de la population. Et c'est ce qui s'est produit suite à cette dernière présidentielle. Il y a eu plusieurs manifestations dans les plus grandes villes du pays, et surtout à Yaoundé, la capitale politique, et Luanda, la métropole économique. Dépendamment de qui s'exprime, le nombre de morts de jeunes manifestants varie. On parle de 4, 6 ou 10 pour l'instant, tués par des snipers tirant à partir des toits des bâtiments directement dans les manifestations. Il y a des centaines de blessés dont on n'a pas non plus le décompte officiel, des personnes décrites par les officiels du gouvernement comme des voyous et des drogués. Des centaines d'entre elles, de ces personnes, ont aussi été arrêtées sans mandat. En plus de la répression létale, le gouvernement a coupé Internet à plusieurs reprises, établi des couvre-feux et des checkpoints. La jeunesse camerounaise en a vraiment assez du règne de Paul Biya. La plupart du monde n'était même pas né, il était déjà au pouvoir.
Non, c'est ça.
Il exerce un pouvoir autocratique sur les institutions. D'ailleurs, le principal opposant, Issa Tchiroma, qui est arrivé deuxième officiellement aux élections selon les résultats officiels contestés, il s'est réfugié chez lui pendant plusieurs jours pour échapper aux arrestations puisque le gouvernement cherchait à le rendre légalement responsable de ces manifestations. Il fallait voir la foule immense qui entourait sa résidence pour le protéger de la police, qui a quand même tiré dans ce que je peux appeler une foule tampon ou un bouclier humain, ce qui a fait deux morts à cet endroit précis. Depuis, Issa Tchiroma est en exil au Nigeria, d'où il s'est autoproclamé président élu, ce qui a davantage galvanisé la jeunesse camerounaise. Il en a profité pour désigner comme porte-parole officielle de son parti au Parlement Alice Nkom, une fort sympathique avocate pro-LGBT dont l'ONG qu'elle dirige est actuellement suspendue par le régime, évidemment. Bref, c'est pas mal là où on en est aujourd'hui en politique camerounaise. Je crois pas que ce sera un mandat de tout repos pour le très vénérable Paul Biya. Par contre, je crois que ça va être son dernier. On le souhaite.
On le souhaite très fort.
Peu importe le motif. Je passe à la Tanzanie. On s'en va donc beaucoup plus au sud. Situation actuelle semblable sur plusieurs plans à celle du Cameroun. Des élections douteuses, fortement contestées par la population civile, suivies immédiatement d'une répression excessive, d'une violence par contre sans commune mesure avec ce qui se passe au Cameroun. On parle pas ici d'une dizaine de morts, mais de plusieurs centaines. Certains avancent le chiffre de 800, voire plus. Il y a un regroupement de 40 ONG africaines qui joignent leur voix pour parler d'un massacre de masse orchestré par l'État. Contrairement au Cameroun, où certains des partis d'opposition avaient été écartés, en Tanzanie, les deux principaux adversaires de Samia, Suluhu Hassan, la présidente sortante, son premier opposant avait été emprisonné et le second disqualifié. Contrairement au président camerounais, elle n'est pas en fonction depuis 50-quelques années, mais seulement depuis 3 ans, mais elle semble déjà très accrochée au pouvoir. Elle a donc officiellement remporté 98% des voix, la presque totalité des 33 millions d'électeurs inscrits. La Tanzanie, c'est quand même 68 millions d'habitants. Les autorités électorales parlent d'un taux de participation de 87%, alors que les citoyens, les journalistes, les observateurs locaux et étrangers s'entendre pour dire qu'à peu près personne n'est allé voter puisque le résultat de l'élection était déjà scellé avant même l'ouverture des bureaux de vote le 29 octobre. Donc, il n'y avait absolument aucun intérêt à aller voter. Il y avait un seul nom sur le bulletin de vote.
C'est ça.
D'ailleurs, il y avait des manifestations importantes autour des bureaux de vote qui essuyaient des tirs nourris de l'armée pendant les 3 jours du scrutin, de là les 800 morts estimés, ce qui, je pense pas avoir besoin de le dire, ne crée pas un climat très propice à l'exercice paisible du droit de vote.
Non, c'est ça, j'allais dire.
Donc, d'un côté, on a le gouvernement qui parle de violentes manifestations qu'il fallait absolument contenir, et de l'autre, d'un taux de participation record, ce qui tient pas vraiment à la route, je sais pas s'ils s'en rendent compte. Pour appuyer les affirmations selon lesquelles l'armée a assassiné des centaines de civils pendant l'élection, il y a des dizaines de vidéos montrant des amoncellements de cadavres et des exécutions sommaires qui ont été publiées dans les réseaux sociaux, des vidéos jugées crédibles par la plupart des observateurs qui se fient à certains facteurs, à la saison, l'éclairage aux langues parlées dans les vidéos, aux témoignages recueillis qui concordent entre eux et avec les images filmées, à leurs propres observations dans les hôpitaux et surtout au fait qu'on n'arrive pas à lier ces images terribles avec des événements semblables qui seraient produits dans la région récemment. Donc, le dossier contient déjà assez d'éléments pour incriminer ce gouvernement qui éventuellement devra probablement répondre d'accusations assez graves. Donc, tout est perturbé actuellement en Tanzanie, le quotidien, les transports, l'économie, les services publics, mais surtout, il y a vraiment un climat de terreur qui est déjà bien installé, avec une présidente qui entend lancer une chasse aux sorcières dans les prochaines semaines pour inculper pour haute trahison le maximum de manifestants présumés, ce qui est passible de la peine de mort. Donc rien pour calmer le jeu, alors que les morts de cette élection frauduleuse ne sont même pas encore tous identifiés et enterrés.
Ouais.
Voilà pour la Tanzanie, c'est vraiment terrible ce qui se passe actuellement.
Oui, effectivement, mais moi je vais peut-être un peu vous consoler en se disant qu'il y a quand même des têtes qui tombent parmi ces... crapuleux.
C'est despote
et crapuleux. C'est que le 5 novembre, l'ancien chef de la police judiciaire de Tripoli, Osama Najim, a été placé enfin en détention. Celui qui est aussi connu sous le nom de Al-Masri faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis le 15 février 2011 dans la prison de Mitiga à Tripoli. Crimes qui sont passibles de la prison à vie. Faut savoir que la Libye est pas membre du statut de Rome, là, qui est le traité fondateur de la CPI. Mais en mai dernier, le gouvernement d'unité nationale à Tripoli a transmis à la Cour, à la CPI, une déclaration officielle acceptant sa juridiction sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés qui seraient commis, qui auraient été commis depuis 2011 ou en cours ou, puis ça, jusqu'à en 2027. Donc, Osama Najim avait déjà été arrêté, en janvier 2025 dans un hôtel de Turin en Italie, en vertu du même mandat de la CPI, mais il avait été libéré 2 jours plus tard sur ordre de la Cour d'appel de Rome pour vice de procédure parce que le ministre de la Justice avait été informé de l'incarcération d'Osama Najim le lendemain de son interpellation, alors qu'il aurait dû en être informé immédiatement. Fait qu'on voit que c'est vraiment des points de détail, c'est n'importe quoi.
Oui, les avocats sont allés chercher ça loin.
Oui. Najim avait alors été expulsé vers Tripoli à bord d'un avion affrété par l'État italien. Une décision, qui a vivement dénoncé à l'époque, là, tant par l'opposition de gauche que par les groupes militants qui ont accusé l'Italie d'avoir volontairement fait libérer le tortionnaire, alors que Rome, on le sait, collabore depuis de nombreuses années avec Tripoli sur la question migratoire. Bref,
C'est juste un point de pression, c'est à la haie qui aurait dû être... C'était la Cour pénale internationale?
Oui, c'est ça. Et donc, une fois de retour à Tripoli, la mission de l'ONU en Libye, la Manul, avait réclamé son arrestation. Donc là, pour ce qui est de l'arrestation qui s'est passée au début du mois, le ministre public libyen affirme avoir procédé à l'interpellation après une enquête portant sur les circonstances des violations des droits de 10 détenus et sur le décès de au moins un d'entre eux des suites de torture. Affilié à la puissante police Force spéciale de dissuasion militaire, Osama Najim est aussi connu pour être un tortionnaire de migrants. L'homme a instauré un régime de terreur pour les migrants qui passaient dans la prison de Mitiga, qui a dirigé pendant 13 ans. Les violations des droits des migrants en Libye ont été largement documentées ces dernières années par les associations ou les journalistes. On vous en a parlé, mais on relaie souvent l'information aussi d'Infomigrants qui a publié des témoignages d'exilés là, qui racontent les sévices subis, les privations de nourriture, la promiscuité, le travail forcé ou encore les extorsions dans les prisons du pays qui sont dirigées par le département de lutte contre l'immigration illégale. Bref, on va suivre ce qui va se passer avec M. Najim, mais...
Procès à venir éventuellement.
Oui, mais ça peut être très, très long. Mm. Donc, on va aller écouter 2-3 notes de musique et on revient avec Mathieu. Alors, Mathieu, qui n'est plus à la console, est maintenant en studio avec moi pour nous parler du génocide en cours en Palestine.
Oui, je reprends le micro. Donc, je vais rendre hommage à deux correspondants chroniqueurs dont on parle souvent à l'émission depuis quelques mois, qui continuent à écrire, qui sont toujours à Gaza et qui sont dans les suites du génocide et de toute la misère là-bas. Rami Abou Djamous, qui écrit pour Orient 21.
Ouais.
Son dernier article, ça s'appelle « Avec la guerre à Gaza, les masques tombent ». Et Sarah Emad Alzac, qui écrit dans Pivot Québec depuis peut-être 3 mois. Son dernier article s'appelle « Pourquoi fait-on les années ?». Je vous conseille d'aller lire ces deux personnes-là, qui sont toujours sur place et qui nous parlent, malgré que les médias généralistes en parlent moins de Gaza depuis le « cessez-le-feu », entre guillemets.
Ouais.
Mais,
gros guillemets, oui.
Gros guillemets, donc je vous recommande d'aller les écouter, sinon les lire, pardon. Sinon, le bilan des intentions, examen de l'impact génocidaire de l'attaque israélienne contre Gaza, c'est un rapport de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient qui date de ce mois-ci, qui synthétise les données existantes pour estimer qu'entre 14 et 20% de la population de Gaza d'avant 7 octobre, donc environ 340 000 à 480 000 personnes, pourrait finalement être tuée à la suite des opérations israéliennes et des conditions qui en découlent et qui en découleront d'ici quelques années. Le rapport utilise les estimations et les modèles existants pour définir diverses projections du nombre de décès palestiniens selon les différents scénarios possibles de la campagne militaire israélienne à venir dans les prochaines années à Gaza. Le rapport conclut que les preuves d'un génocide commis par Israël sont solides et étayées par un nombre croissant de publications universitaires et de documents officiels provenant de l'ONU et d'ONG. Donc, finalement, c'est des estimations avec les conséquences actuelles de ce qui est arrivé, les gens qui vont mourir éventuellement de maladies, ouais. Façon bon, etc. Mais aussi les futurs, parce qu'on voit que les opérations se poursuivent, donc intéressant à lire un rapport de CGPMO. Sinon, il est impossible de savoir combien de Palestiniens sont toujours détenus dans les prisons israéliennes, tant les autorités entretiennent le flou sur leur sort. Israël a dû se justifier le 11 novembre dernier sur leur traitement devant le Comité contre la torture de l'ONU à Genève. La torture est quasi généralisée pour les Palestiniens emprisonnés en Israël, selon plusieurs ONG, depuis plusieurs années.
Ouais.
Passage à tabac, viol, détenus qui dorment à même le sol. L'ONG Physician for Human Rights, qui est israélienne, évoque plus de 9000 personnes encore détenues, et c'est sans compter ceux enfermés dans les prisons militaires, qui ont un statut différent, je vais en parler dans quelques instants. Des conditions de détention inhumaines et qui sont devenues la norme avant même l'attaque du 7 octobre. Je cite un extrait du rapport. La torture a commencé avant, au début de 2023. Le ministre d'extrême droite, Ben Gvir, devient responsable des prisons. Et pour lui, les conditions de détention doivent faire partie de la punition collective infligée aux Palestiniens. Et le cessez-le-feu n'a rien changé, confirme l'ONG Comité public contre la torture en Israël, une autre ONG israélienne. La plupart des lois qui ont permis que la torture soit pratiquée sont encore en place. On voit toujours des arrestations de masse, des cellules bondées, des refus de soins, des prisonniers qui meurent de faim. En réalité, les témoignages qu'on reçoit montrent même que la torture a augmenté depuis le cessez-le-feu. Les ONG affirment avoir réussi à documenter près d'une centaine de cas de Palestiniens tués en détention depuis le 7 octobre. Un exemple, plusieurs Palestiniens ont été incarcérés en Israël sous le régime des combattants illégaux, privés de leurs droits et de contact avec le monde extérieur, basé sur la notion américaine des années 2000,
ouais.
Privés pendant des mois de contact avec son avocat, Shadi Abou Sidou, c'est un exemple, dit avoir perdu la notion du temps, de l'espace et de ses droits, incarcéré en Israël sans inculpation. Ce photojournaliste de 35 ans a été arrêté en mars 2024 à Gaza. Avec quelques 2000 prisonniers palestiniens, il a été relâché en échange de la libération des 20 derniers otages du Hamas retenus dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. En détention, ils lui ont dit qu'ils avaient tué ses enfants et ses femmes. Et quand il a vu ses enfants et sa femme. Et quand il a vu ses enfants le 13 octobre, ça a été un choc complet.
Parce qu'il croyait.
Oui, il avait dit ça. Arrêté alors qu'il travaillait dans le complexe hospitalier d'Al-Shifa, qu'on a beaucoup entendu parler. Il est d'abord incarcéré à Sde Temen. Cette prison de haute sécurité a été aménagée dans une base militaire pour les Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le 7 octobre. S'en est suivi environ 100 jours de torture avec de 5 à 23 heures les mains attachées, les yeux bandés, l'interdiction de parler. Il fait ensuite pendant une semaine l'objet d'interrogatoires, mais ils ne connaissent pas son identité, ça même pas y est qui. Monsieur Sidou est ensuite transféré vers la prison militaire d'Ofer en Cisjordanie occupée, où les conditions étaient inimaginables selon ses dires. En près de 20 mois, il n'aura que 2 entrevues avec son avocat. Aucune accusation n'a été portée et la détention a été prolongée automatiquement sans explication à plusieurs reprises. Les combattants illégaux sont environ 1 000 000 dans les prisons militaires et civiles israéliennes actuellement selon plusieurs ONG. Entre autres, 18 médecins de Gaza ainsi que des dizaines d'autres professionnels de la santé restent emprisonnés illégalement depuis des mois, malgré l'entrée en vigueur de la trêve.
Ouais.
Donc, sous ce statut. Sinon, en France, ben, vous avez peut-être entendu parler de la Philharmonie de Paris. Ça a brassé pas mal à la suite de l'interruption à 3 reprises du concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à la Philharmonie de Paris. 4 manifestants ont été mis en examen pour 6 délits différents, dont les qualifications pénales sont fortement contestables. En revanche, les spectateurs du concert, que l'on voit clairement leur casser la gueule sur des vidéos, ne sont pour l'instant pas inquiétés par la justice, malgré le dépôt d'une plainte par les manifestants. Donc, 4 personnes ont été accusées d'un paquet de délits, dégradation de biens, organisation de manifs sans autorisation, voix de fait sur des personnes, en tout cas, une affaire délirante. Et les gens qui leur ont cassé la gueule, parce que c'est vraiment le cas, là, ils ont été blessés et tout. Puis c'était une manif pacifique, donc ne sont pas inquiétés. Un des arrêtés a témoigné. À la sortie de la salle, la police est arrivée et procédait à un contrôle d'identité. On entendait des commentaires insultants du type « bande de guignols de Gaza, vous allez voir au commissariat ». Et au commissariat, ils ont été traités comme des merdes, insultés, pour ceux qui connaissent, au commissariat du 19e arrondissement à Paris. Ils ont demandé à voir des médecins parce qu'il y avait un camarade qui avait le crâne ensanglanté et l'autre personne avait perdu connaissance à la sortie de la salle et avait un œdème sur la tête. Finalement, ils ont pu voir des médecins, mais ça a pris du temps. Ils ont été insultés. En tout cas, c'est le traitement des manifestants pro-palestiniens en France. C'est vraiment terrible. C'est de pire en pire. Ben sinon, ben ici, je vais terminer là-dessus tranquillement. Un ex-rapporteur spécial de l'ONU a été retenu 4 heures à la douane de l'aéroport Pearson de Toronto alors qu'il arrivait au pays pour donner une conférence sur la Palestine il y a une dizaine de jours. Richard Falk, professeur américain retraité de l'Université de Princeton et ancien rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, prenait la parole à Ottawa lors d'un événement intitulé « Tribunal sur la responsabilité du Canada en Palestine ». Monsieur Falk raconte que les douaniers ont saisi son passeport et celui de sa femme et les ont conduits dans une salle d'entretien. Les agents des services frontaliers cherchaient à déterminer si lui et sa femme représentaient une menace pour la sécurité nationale du Canada. Cela ne m'est jamais arrivé de toute ma vie, a déclaré M. Falk, âgé de 95 ans.
Oui, puis il est connu quand même. Là,
il est très connu, Richard Falk, oui, tout à fait. On lui aurait posé une série de questions sur sa participation à la conférence, son implication dans le conflit israélo-palestinien et sa position sur Israël. Le sénateur Yann Paul Hou dit avoir été informé par les organisateurs de la conférence au sujet de cet incident, ce qui l'a incité à contacter le bureau du ministre et de régler la situation. Finalement, l'Université d'Ottawa a annulé à la dernière minute la location des salles et l'événement a pu se tenir en partie au Sénat, grâce aux sénateurs, mais surtout en ligne. Donc, voilà pour cette... Fait qu'en France, au Canada, c'était pas au même niveau mes deux exemples.
Ouais,
mais disons
non,
que
ça,
la répression... Mais quelqu'un...
C'est aussi chic l'un que l'autre.
Oui, un rapporteur spécial de l'ONU qui a 95 ans, là. C'est un Américain, en plus. Là. C'est quelque chose.
Merci, Mathieu. Ouais. Sur ça, on va aller en musique pour une toune de circonstances de Kerry James qui s'intitule « Chabanne ». Je vous en dis plus au retour.
Hypocrite démocrate, je peux plus me les voir, assassin au costard. cravate, je peux plus les croire. Voir leur monde tel qu'il est, dans les yeux d'un Palestinien. La paix dans la bouche, mais beaucoup de sang sur les mains. De poids, de mesure, d'honneur, de leçon. Quand ils parlent de droits de l'homme, ils ne te parlent que d'hommes blancs. Les autres peuvent bien crever par centaines, par milliers. Tu les verras jamais se lever, s'il n'y a rien à piller. Leurs paroles sont gravées, leurs actes témoignent. Ils réclament un cessez-le-feu, mais fournissent des armes. Tu trouveras pas plus hypocrite, mesquin, cynique. Des tueurs d'enfants, dans des costumes d'humanistes. Mensonges et censures, déclarations et postures. Adeptes du double langage, du deux poids, deux mesures. Les mêmes qui faisaient la chasse à ceux qui ne se sentaient pas Charlie. Interdits à Zineb de s'émouvoir pour les Gazaouis. Punition collective, culte de la vengeance. Ils parlent de terrorisme, mais jamais de résistance. Guerre des mots, colonisation rhétorique. 1984 n'a plus rien de dystopique. On n'a plus le droit de s'offenser. Peu de mots pour se prononcer, endoctrinés depuis le lycée. On nous sert du prêt à non-penser. Leurs journalistes, des procureurs qui ont délaissé la raison, perdu la boussole du cœur. Ils provoquent des famines, bombardent des ambulances, nous crachent à la figure, insultent notre intelligence. Un enfant s'effondre sous les tirs d'un sniper, d'une balle en plein cœur. Ils appellent ça une erreur, feu sur les casques bleus et que personne ne s'en mêle. Hein? Soutien inconditionnel. L'armée dite la plus morale, celle qui piétine ce qu'ils nomment le droit international. Assassine des journalistes pour avoir les mains libres. C'est faux comme la mort leur donne le coup de vivre. Le média n'en forme plus mais relaie la propagande. Les as-tu entendu dire que l'oppresseur a le droit de se défendre? Leur monde me dégoûte, leur hypocrisie me déroute. J'ai peur de ne plus revoir ces visages aimants à Beyrouth. Les mêmes qui faisaient la chasse à ceux qui ne se sentaient pas Charlie. Interdisent à Zineb de s'émouvoir pour les Gazaouis.
Hello, I'm Shaban from Palestine. I'm a student studying computer system engineer. I was displaced from the north to south under the occupation of Brits.
Il y a des silences fautifs. Shaban est mort, brûlé vif. Quelques lignes dans leurs journaux. Ils ont plus de compassion pour les animaux. J'aurais aimé le rencontrer. On avait peut-être plein de choses à se raconter. Je me demande ce qu'il faisait sourire. Mais je sais ce qu'il a fait mourir. Peut-être que Shaban avait des projets. Peut-être que Shaban avait des espoirs. Peut-être que Shaban rêvait de paix. Je sais que Shaban vivait mes cauchemars. Peut-être que Shaban était amoureux. Des questions plein la tête, peut-être qu'il était curieux. Peut-être que Shaban était doux et tendre. Peut-être que Shaban se voyait faire un jour le tour du monde. Peut-être que Shaban était un artiste. Peut-être que Shaban était un utopiste. Difficile de l'être quand chaque jour la mort vous frôle. Mais si ça se trouve, Shaban était drôle. Shaban était palestinien. Mais Shaban était un être humain. Shaban prenait soin des siens. Shaban était le fils de quelqu'un. Quelque part, quelqu'un le pleure. Quelqu'un regrette sa voix et son odeur. Les flammes de leur mal se répandent. Ils ont réduit son avenir en cendres.
On vient d'entendre la pièce Shaban du rappeur français Kerry James. C'est le deuxième morceau à être rendu public qui est extrait de l'album Rap, R.A.P. pour Résistance, Amour et Poésie, qui est à paraître le 28 novembre, soit demain. Shaban est un hommage à Shaban al-Dalou, un Palestinien mort à l'âge de 19 ans, brûlé vif suite au bombardement d'un hôpital par l'armée israélienne le 14 octobre 2024. Je cite Kerry James à propos du jeune homme. Les images insoutenables de sa mise à mort ont bouleversé tous ceux qui ont encore en eux une part d'humanité et m'ont inspiré ce morceau. Vous ne verrez pas ce clip à la télévision et n'entendrez pas ce morceau à la radio. Alors partagez paix, amour et justice. C'est ce qui met fin à notre première partie de l'émission qui était très internationale. Là, on revient en sol canadien québécois. Avant de retrouver Mathieu pour les actualités en lien avec l'immigration, une nouvelle à propos de l'armée canadienne. Le 31 octobre, la chef d'état-major de la Défense nationale, la générale Jenny Carignan, a présenté des excuses officielles aux membres des Forces armées canadiennes qui ont été victimes de racisme systémique, de discrimination et de harcèlement racial dans le cadre de leur service militaire. Alors, c'est peut-être vrai, finalement, que l'armée canadienne est woke.
Hein?
Je la cite, donc, cette Jenny Carignan. « Pendant bien trop longtemps, les membres des Premières Nations, les Inuits, les Métis, les Noirs, les Asiatiques et les autres membres racialisés des Forces armées ont été confrontés à des barrières systémiques qui limitaient leur capacité à servir, à contribuer et à s'épanouir en tant que membres égaux. Ils ont trop souvent été maltraités, voire été victimes d'abus de la part de leurs collègues. » Alors, il y a des militaires retraités issus des communautés autochtones, noires et asiatiques qui ont pris la parole pendant la cérémonie. Par exemple, il y a l'ex-sergente et ancienne chef de la Première Nation des Algonquins de Pequawkanagan, Wendy Joko, qui a rappelé le sort des soldats autochtones qui ont combattu pour la liberté à l'étranger ou pour des droits qui eux-mêmes ne possédaient pas encore, comme le droit de vote, mais aussi ceux qui sont rentrés de l'étranger pour trouver leurs enfants placés dans des pensionnats ou que leur terre avait disparu. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui ont subi des humiliations quotidiennes, comme les insultes, des promotions refusées ou des pratiques culturelles non respectées. Il y a aussi le capitaine à la retraite, Kevin Jr., qui a parlé du racisme anti-noir. Il a aussi fait référence au rapport final du comité consultatif du ministre de la Défense nationale sur le racisme systémique et la discrimination, qui affirmait, et je cite, « Le racisme au Canada n'est pas un dysfonctionnement du système, c'est le système. Mm-hmm. » Ces excuses officielles découlent de consultations auprès des membres des Forces armées et d'experts universitaires au début de l'année, mais aussi de l'accord de règlement du recours collectif concernant le racisme dans les rangs militaires. Ce recours collectif-là a permis d'indemniser les membres ayant subi de la discrimination ou du harcèlement durant leur service de 1985 à janvier de cette année. Et finalement, dans une chronique publiée sur le site de Radio-Canada, Robert Falcon Ouellet se demande s'il ne serait pas temps de créer un régiment national spécifique pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, comme il en existe déjà pour d'autres communautés, par exemple le Irish Regiment of Canada, les régiments écossais ou encore le Royal 22e Régiment.
Pour les Canadiens français.
Oui. Ouais, écoute, ça se défend.
Ça se défend. Ben oui, Marie-Ève, je vais parler des actualités récentes en immigration. Donc, au niveau des... Je vais donner quelques chiffres pour commencer. Le nombre de résidents temporaires qui seront admis au Canada sera réduit de près de la moitié. Il passe de 673 000 à 385 000 personnes de 2025 à 2026, puis à 370 000 pour les deux années suivantes. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement Carney exceptionnellement dans son budget 2025. Il s'agit d'une baisse d'environ 43%.
C'est énorme.
C'est beaucoup de monde. Le gouvernement fait déjà état de certains, ce qu'il appelle améliorations, donc je dis changements, en 2025. Une baisse du tiers des demandes d'asile, une diminution de 50% des travailleurs étrangers temporaires et de 60% des nouveaux étudiants internationaux par rapport à 2024, pour 2025. Les cibles d'admission de résidents permanents seront, elles, réduites et stabilisées à 380 000 par année pendant 3 ans. En 2025, elle était de 395 000, mais a déjà été à 400, 500 000.
Ouais.
La part de migrants économiques sera revue à la hausse de 59% à 64%. Sinon, le gouvernement propose une initiative ciblée de recrutement de plus d'un millier de chercheurs étrangers hautement qualifiés au Canada. Et on va mettre 1,7 milliard là-dedans. Aussi, le budget de 2025 prévoit 97 millions sur 5 ans pour le Fonds d'action pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Ça peut être une bonne nouvelle. Le budget dévoile une initiative pour accorder le statut de résident permanent à 115 000 personnes protégées admissibles dans les deux prochaines années.
Ça, c'est intéressant aussi. C'est une bonne nouvelle.
Comme pour faire un peu de ménage, je pense, dans les...
pour diminuer les temps d'attente.
Les retards de traitement. Donc, ça, c'est 120 millions sur 4 ans pour ça. Et une seconde mesure ponctuelle, cette fois, propose d'accélérer en 2026 et 27 la transition d'au plus 33 000 travailleurs titulaires d'un permis de travail vers la résidence permanente, qui ressemble un peu au PEC, là, par exemple. C'est un peu le même genre de choses, mais ça, c'est au fédéral. Au Québec, 45 000 immigrants permanents par année de 2026 à 2029. On sait 61 000 qui sont attendus en 2025, donc une baisse, évidemment. Comme prévu dans le cahier qui a servi aux consultations publiques, le gouvernement Legault se fixe comme objectif de réduire de 13% le nombre de résidents non permanent en sol québécois d'ici 2029. Québec annonce notamment que la suspension de la réception de certaines demandes relatives au programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, qu'il contrôle en partie, sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Ça, c'est pour la région de Montréal et de Laval surtout. Québec prévient aussi qu'un règlement entrera en vigueur le 17 décembre pour obliger les immigrants issus du PTET à démontrer qu'ils ont acquis une connaissance suffisante du français s'ils veulent renouveler leur permis de travail au bout de 3 ans. Ça, c'était annoncé, mais il n'y avait pas de date encore. Ben, avec tout ça, les organismes dénoncent la faible part que le nouveau plan du ministre Roberge consacre à l'immigration humanitaire, une décision perçue comme un abandon total par Québec de ses obligations internationales.
Ben oui.
Avec le scénario de 45 000, la part de l'immigration humanitaire a effectivement été réduite à 13 %, quelques points de pourcentage, en deçà des années précédentes. Plus précisément, le nombre de réfugiés pris en charge par l'État, admis désormais 3 fois moins, passa de 1 700 à 500 pour 2026 et les années subséquentes, soit le niveau le plus bas de son histoire. Les cibles sont encore plus faibles, à peine 400 pour le programme de parrainage collectif suspendu jusqu'en 2030. Et pour le regroupement familial, c'est 10 000. Il y avait une demande de beaucoup plus parce qu'il y a un arriéré de 42 000 actuellement. Donc, ça fait dire à certains analystes que pour certains programmes, la résidence permanente va prendre jusqu'à 36 ans si on reste avec ces cibles-là. On revient quelques jours avant cette annonce-là. Il y a eu l'adoption de la loi 94. Donc, les élèves du Québec devront désormais fréquenter l'école à visage découvert, tout comme tout le personnel scolaire. En outre, les menus adaptés aux restrictions religieuses seront interdits, de même que les absences ou les congés accordés au personnel pour des célébrations religieuses qui ne figurent pas au calendrier scolaire officiel. Le projet de loi est adopté à 70 voix contre 27. Les caquistes et les péquistes ont voté pour et les libéraux et les solidaires ont voté contre. Cette pièce législative raciste très large, par exemple, l'interdiction de porter des signes religieux s'étend aux personnes qui travaillent en vertu d'entente avec les établissements scolaires primaires et secondaires. Éducatrice
comme
en
la sous-traitance, là, genre?
Éducatrice en service de garde, conseiller pédagogique, psychologue, le bénévole à la bibliothèque, le concierge, le personnel de la cafétéria, l'entraîneur de hockey, etc., etc. Donc, même ceux qui travaillent dans des groupes communautaires, c'est pas clair encore, là, qui ont des contrats avec un CSD, avec, mettons, un centre scolaire. Par ailleurs, aucun local scolaire ne pourra être mis à disposition pour des pratiques religieuses, même en dehors des heures de classe. Et là, on rit, mais c'est pas tellement drôle, hein?
Mais le party de Noël, c'est pas religieux, ça?
C'est dans le calendrier officiel.
Ah, c'est ça.
Et en plus, la décision de Québec de rendre rétroactive au 19 mars la clause grand-père pour la loi 94 crée confusion et mécontentement dans le réseau. Le gouvernement répond que la même modalité avait été appliquée pour la loi 21, donc on ne veut pas bouger. Donc, c'est un détail du projet de loi qui n'avait pas attiré l'attention beaucoup, mais qui commence à créer toute une commotion, c'est que l'entrée en vigueur de cette clause de droit acquis est rétroactive au 19 mars dernier, au moment du dépôt du projet de loi 94. Donc, par conséquent, tous les employés portant un signe religieux nouvellement embauchés ou ayant changé d'employeur ou de fonction à l'intérieur du même employeur entre le 19 mars et le 30 octobre dernier ne sont pas protégés par la clause grand-père. Ils ont fait la même chose en déposant un nouveau projet de loi aujourd'hui en disant que ça allait être la même chose. Donc, en terminant, je vous suggère une chronique de Haroun Bouazi dans le Pivot du 6 novembre qui s'appelle « Loi 94, le serment du test à l'ère du nationalisme identitaire ». Et aussi, ben, sur le PEC, j'en ai pas parlé, ça a été annoncé en même temps que les cibles, là, au niveau de la fin du programme, mais 2 articles sur les conséquences pour des vraies personnes. Dans La Converse, abolition du PEC, des vies brisées par le rêve québécois. Et dans Alter Québec, suppression du PEC, ils sont en train de jouer avec nos vies. Et on parle dans les prochaines semaines du nouveau projet de loi déposé ce matin, qui touche aussi les universités, les cégeps et les CPE.
Oui, c'est ça.
L'autre, c'était primaire, secondaire, là, on y va. Bientôt, ça va être les coops, ça va être le communautaire, ça va être l'entreprise privée, les syndicats.
Ça va être choc.
Ça va être choc. Oh non, pas l'UQAM.
Je commence notre agenda par des suggestions dans le cadre des RIDM, parce que c'est pas fini. Toutes mes suggestions sont présentées à la Cinémathèque québécoise. D'abord, le 28 novembre, demain, à 19h30, le film « Mais où va-t-on, Coyote? » de Jonah Malak. Le cinéaste suit un couple mexicain qui tente de retrouver les corps de migrants disparus dans le désert frontalier entre le Mexique et les États-Unis. Ça risque d'être un film assez poignant.
Mm-hmm.
Ensuite, samedi, le 29 novembre, à 14h, « Liti, Liti » de Mamadou Kouna Gueye. Le film se passe dans les faubourgs de Dakar, au Sénégal, où le cinéaste filme sa mère âgée qui, comme des milliers d'autres habitants et habitantes du quartier de Guinan Rail, est forcée d'abandonner la maison où elle a vécu plus de 40 ans parce que le quartier va être détruit pour faire place à un train express régional.
Ah oui.
Mon autre suggestion, je vous en fais une par jour, là, pour dimanche le 30 novembre à 18h, le film « With Hassan in Gaza » de Kamal Al-Jafari. C'est un film qui est fait à partir de cassettes mini-DV qui ont été tournées en 2001 puis qui ont été récemment redécouvertes et assemblées. Le documentaire suit donc le voyage de Kamal Al-Jafari, le cinéaste, là, et son guide Hassan El-Boubou à travers la bande de Gaza à la recherche d'un ancien ami de prison de Kamal. Je cite un extrait de la présentation du film. Le film d'Al-Jafari rencontre de la réalité des Palestiniens et Palestiniennes, transformant des moments du passé en un témoignage d'une urgente nécessité, un document historique et un acte intime de résistance.
C'est quoi le titre déjà?
With Hassan in Gaza.
Okay.
Je poursuis avec deux autres événements. D'abord, le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO, célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Pour souligner ça, l'organisme fait une journée de réflexion suivie d'une soirée festive bénéfice le 2 décembre à Montréal. Ça va être l'occasion d'entendre des intervenants et intervenantes internationaux issus de divers milieux, là, syndicaux et ouvriers, pour parler de leur lutte et des défis qui les attendent, puis de réfléchir là, collectivement aux moyens de renforcer la solidarité internationale intersyndicale. C'est gratuit pour participer à la journée de réflexion, mais il faut s'inscrire. Quant à la soirée bénéfice, ben les billets là, varient, c'est selon d'un prix accessible à un prix pour les organisations là, entre 30 et 100 $. Ça se passe au siège social de la CSN sur de Lorimier, près du métro Papineau, ici à Montréal. Toutes les informations sont disponibles sur le site du ciseau.qc.ca. Et toujours à Montréal, le 4 décembre, l'Observatoire pour la justice migrante et Amnesty International lancent conjointement une nouvelle trousse éducative sur l'immigration qui s'adresse à tout le monde, tant aux élèves du secondaire, aux étudiants et étudiantes des cégeps et des universités, aux groupes communautaires, milieux syndicaux, etc. L'objectif, c'est d'outiller le public pour mieux comprendre les enjeux vécus par les personnes immigrantes au Québec, mais aussi pour déconstruire les idées reçues, puis animer des discussions, que ce soit en classe, en organisme ou à la maison. C'est peut-être un bon plan pour les parties de Noël.
Oui!
C'est donc le 4 décembre à 17h au Café Les Oubliettes dans Rosemont-Petite-Patrie. C'est au 6201 Saint-Vallier, entre les métros Beaubien et Rosemont. C'est déjà la fin de l'émission. Ça passe toujours très, très vite, surtout quand on est à l'animation.
Oui, on est bien occupé.
Si on vous a donné le goût de nous suivre, ben allez voir notre page FB. On essaye d'y relayer le plus d'informations possible. Je vous rappelle que nos balados sont aussi disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore au www.apatridesanonymes.info. On vous invite aussi à nous écrire, par exemple, pour nous proposer des sujets à apatridesanonymesresiste.ca. Merci à vous deux, chers co-concepteurs, co-animateurs.
Merci à toi, Marie-Ève, pour animation, contenu et choix musicaux.
Merci à vous deux. Merci à tout le monde qui nous écoute aussi.
Et je rajouterai à l'agenda, grosse manif à Montréal contre la CAQ, faire front pour le Québec samedi. Il y a des bus de partout au Québec qui sont gratuits, donc il va y avoir beaucoup de monde dans les rues de Montréal samedi le 29.
Ça part de où?
La place du Canada.
La place du Canada,
à
donc
13h30.
Samedi à 13h30, faire front contre la CAQ.
Qui
nous fait crisser des dents. Eh bien, nous, on va se voir, on va se reparler dans deux semaines pour notre rendez-vous habituel. On va se laisser en musique avec du rock psychédélique libanais.
Mm-hmm.
On va écouter une pièce du groupe Sanam qui s'intitule Hadikat al-Hams. J'ai cherché avec Google Translation. Ça m'a dit que ça voulait dire le jardin d'hier. Si c'est exact, je trouve ça très beau et poétique.
Tout à fait.
Et la pièce est tirée de l'album Samtun Sautan, paru en septembre. Bonne écoute.
كيف استطاع الهوى وحده أن يحمل روائح الحديقة وألوانها على ظهره من دون أن يلهو
الحديقة أني